RCF.
La religion peut-elle être cause de fanatisme et pourquoi la foi a poussé certains croyants à accomplir leurs exigences jusqu'à l'extrême? Est-ce vraiment ce à quoi Jésus invite les croyants? Avec vous, frère Philippe N, nous allons remonter le temps jusqu'au 1er siècle après le Christ. Vous avez voulu comprendre ce qui avait conduit ces premiers chrétiens à adopter une vie d'ascèse, une vie exaltée, parfois proche de comportements extrêmes. Frère Philippe N, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié un ouvrage intitulé « L'Église face au fanatisme, l'exemple des premiers chrétiens » aux éditions Salvator. Un livre qui passe en revue les comportements des premiers croyants, connus et inconnus, les communautés, les pères de l'Église, les sectes hérétiques et les théologiens qui ont marqué le christianisme. Avec une question, l'amour du Christ, l'amour de l'Église, la foi, peuvent-ils conduire à un moment donné ou un autre à la destruction? Autrement dit, la religion peut-elle être source de fanatisme? En somme, vous vous demandez ce que notre religion exige de l'homme et vous vous penchez sur les premiers temps de l'Église. Alors pour bien comprendre, il faut redonner un peu le contexte de ces premiers temps. À quoi ressemblent ces croyants qui voulaient suivre Jésus?
Ah, bonne question. Quel est le plus grand recrutement des chrétiens dans les premières communautés? On n'a qu'à lire dans l'Évangile, on le voit principalement, ce sont des pêcheurs, ce sont des petits artisans, et ou parfois certains administrateurs ou fonctionnaires de l'État, comme Saint Matthieu ou Zaïre, qui étaient donc des collecteurs d'impôts. Par la suite, on voit que très vite, déjà donc avec Saint Clément, Clément de Rome, qui écrit donc en 92 une première lettre, on voit que c'est vraiment un avocat, quelqu'un qui a une très grande éducation. Donc on n'a pas de véritable image type des premiers chrétiens.
Les païens percevaient malgré tout les chrétiens comme étant des non-instruits, des gens parfois un peu simples. Ils étaient un petit peu dénigrés, certains croyants étaient dénigrés, certains chrétiens étaient dénigrés par les païens.
Oui, mais certainement. Origène a dû réagir contre un philosophe, je cherche son nom, qui écrit en se moquant beaucoup, disant bon, tous les chrétiens, bon, ce sont juste des vieilles dames qui font le nettoyage et qui sont capables de balayer devant leur porte, il n'y a aucune instruction. Et même, faut pas oublier, tout de même que Saint Augustin était fort déçu en lisant la Bible, en disant, mais c'est l'histoire de bédouins qui se battent pour avoir un peu d'eau là-bas pour leurs bêtes et qui se disputent pourquoi il y a deux chèvres en plus, que sais-je encore. Non, non, le niveau intellectuel des premiers chrétiens est tout à fait dénigré. Mais il faut bien se rappeler la différence de démarche intellectuelle entre les chrétiens et les philosophes. Un philosophe part d'une idée qu'il a, il raisonne. Un chrétien part d'une rencontre avec quelqu'un et il la vit, il la médite. C'est pas la même chose de faire fonctionner sa raison et de faire fonctionner ainsi l'ensemble de son cœur, de son corps et de son âme par rapport à quelqu'un. Ou bien on commence à définir une idée, l'homme est un roseau pensant et après l'argent détruit tout le reste, ou bien de se dire qui es-tu? Qui suis-je? Et dans chaque jour, dans le processus de séduction et de répulsion, de déception et de découverte, il y a ce processus. Ce n'est pas moi qui suis maître de Dieu, c'est à moi de le découvrir.
Et alors parmi ces premiers chrétiens, certains ont découvert les paroles du Christ et les ont comprises d'une certaine manière. C'est une question aussi d'interprétation, peut-être le fanatisme. Alors il faudrait redire à quoi ressemblait le fanatisme de ces premiers chrétiens.
Alors tout d'abord, le mot fanatisme est un mot qui est utilisé seulement au XVIIe siècle, entre autres par Bossuet, je pense un des premiers, où il se moque de Fénelon, en disant Fénelon est un fanatique. Pourquoi? Parce qu'il a une idée obstrue, étroite ainsi de la foi, parce qu'il était fort influencé par le quiétisme donc du XVIIe siècle, une façon de croire que Dieu fait tout et nous n'en a rien à faire, et Bossuet s'est moqué, c'est un fanatique. Par la suite, au XIXe siècle, les grands philosophes se sont moqués d'eux, en disant ce fanatique, fanatique vient de Fanum, qui veut dire le temple. Pour ça qu'on parle des gens qui sont profanes, ce sont des gens qui sont devant le temple et en dehors du temple. Donc fanatique, l'idée de fanatisme est automatiquement liée à l'idée d'une foi ou d'un culte. Et c'est là ma grande question que je me suis toujours posée. Est-ce que le fait de devenir croyant, est-ce que le fait de devenir religieux, est-ce que le fait de devenir dominicain fait que je suis exclusif? Est-ce que ça m'empêche de pouvoir être accueillant, respectueux, intéressé, passionné de rencontrer les autres? Est-ce que je suis vraiment condamné à avoir des œillères autour des yeux? Et ça, c'est une question qu'on doit sans cesse se poser. Pour ça, j'ai étudié un petit peu le fanatisme chez les premiers chrétiens. Est-ce que les premiers chrétiens étaient exclusifs?
Et alors, vous avez découvert de drôles d'histoires, parce que c'est vrai que chez certains, les comportements pourraient aujourd'hui presque prêter à sourire, mais à l'époque, c'est véritablement la conviction qu'on suit le Christ précisément juste derrière ses pas quand on adopte ce type de comportement.
Il y a un ensemble de phénomènes.
Oui. Mais... alors peut-être le montanisme, le martyr volontaire.
Ah ben voilà, ça c'est le gros problème qui se pose, ça c'est certain. C'est quoi un témoin du Christ ? Est-ce que moi je suis chrétien en tuant l'autre, mais celui qui aime Dieu au point de tuer l'autre, c'est pas Dieu qui l'aime. C'est une image de Dieu, c'est quelque chose de perverti. Et ça je trouve ça triste de couvrir ainsi des idéologies destructives sous le noble manteau de la foi et de Dieu. Non. Les premiers chrétiens, les premiers martyrs n'ont pas cherché à tuer. Ils ont accepté d'être tués. Ce n'est pas la même chose. Et accepter d'être tué, ce n'est pas le chercher. Et ça, c'est la différence avec les montanistes qui se sont séparés de l'Église, la grande Église, en disant, celui, j'ai frappé à la porte de monsieur le directeur de la prison des Romains, je suis chrétien, je vais mourir, là, 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 brûlez-moi.
C'est des gens qui venaient s'offrir, en fait.
De s'offrir. Et on le voit directement dès le premier récit des premiers martyrs chrétiens qui sont reconnus. Ce n'est pas ça que Jésus a enseigné. Et c'est vrai, Jésus a dit, si vous êtes chassé d'une ville, allez ailleurs. Si vous n'êtes pas persécuté dans une ville, allez ailleurs. Ne cherchez pas la mort. Mais une fois qu'on vous le demande de le faire, ça c'est différent. Et ce qui est très beau, c'est que déjà vers 110, on a Ignace d'Antioche, un des premiers martyrs. C'est une histoire tragique. Il était à Antioche, en Turquie, en frontière, et le juge lui dit, voilà, on t'offre un voyage gratuit pour Rome. Ah bien, un aller simple, ah bon, pour te faire manger par les lions à Rome. Ah bon. Et c'est pendant ce triste voyage, ainsi entre Antioche et Rome, qu'il rencontre des communautés chrétiennes qui vont les voir. Chose incroyable, ces communautés chrétiennes viennent lui demander des conseils, de la consolation. Alors que lui, il marche vers sa mort, entouré d'autres condamnés à mort. Vous imaginez le genre de fréquentation, entouré de soldats romains qui sont mal payés et que ça embête de voir conduire ces gens-là. Donc, ils ne vont pas les loger à l'hôtel ni leur offrir de bonne nourriture. Ils les flagellent, ils les tapent et ainsi de suite. Et c'est là-dedans qu'il va se dire « qu'est-ce que je fais ici ?» Et le matin, il se réveille, il a mal à l'estomac parce qu'il a peur de mourir. La nuit se réveille parce qu'il a une crampe dans la jambe, parce qu'il sent les crocs des lions qui sont plantés dans sa jambe. Et il se réveille, il dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et il se dit, Jésus, fils de Dieu, fils de Marie, mort par amour pour moi. Et il veut vivre cela. Il veut donc non seulement accepter cette mort injuste, mais seulement faire véritablement une union profonde. Comme le Christ est mort par amour pour moi, moi aussi, je veux me donner à toi.
Et alors justement, vous racontez cette histoire parce que dans le cours de votre réflexion, vous vous posez la question de y a-t-il eu dans ces premiers siècles de chrétiens une exhortation au suicide ?
Oui, bien sûr, tout est possible. Les meilleures idées peuvent être travesties et même les plus belles relations amoureuses peuvent donner lieu à des sortes de choses sordides et que sais-je encore. Le plus important, c'est de voir quelle est la ligne de démarcation. Je dis pour moi, vie à moi. Je n'ai pas commencé à critiquer les autres, ils sont morts. Mais je commençais à voir comment moi je peux essayer de vivre ma foi chrétienne de façon non pas fanatique destructive, mais fanatique amoureuse, ça certainement. Si ce que je dis, ce que je fais est destructeur par rapport aux autres, c'est pas Dieu que j'aime. Si je ne construis pas autour de moi une communauté, alors ce n'est pas bon.
C'est pour ça que vous associez les actions de certains donatistes à l'orgueil ?
Les donatistes, rapidement, donc c'est pendant lors d'une des persécutions, il y a un évêque qui aurait permis aux soldats romains de prendre les livres sacrés et les vases sacrés. Et au cours d'une élection, ça c'est compliqué, bref, il y a une dissension qui s'est faite en disant « non, nous, une partie du clergé carthaginois ». La Tunisie actuelle, une partie des Libyens, qui sont révoltés contre l'autre partie du clergé, au sujet d'une pureté. Enfin, vous savez, c'est comme après la guerre, on a eu l'épuration. Donc il y a eu des gens, des résistants, plus résistants que les autres, qui ont massacré des gens qui ne nécessitaient. Donc on a fait un phénomène d'épuration. C'est un phénomène très local, c'est très important, et peut-être social aussi. En ce sens qu'il y a eu, à ce moment-là, c'était la grande crise économique où les petits fermiers étaient ruinés. Et donc, il y avait des bandes d'hommes ainsi qui circulaient dans les campagnes, affamés, et qui prenaient d'assaut ainsi les grandes fermes, ce qu'on appelle les circoncellions, et qui les dépouillaient. Donc, on a affaire à un phénomène à la fois économique, social, local, culturel, probablement, et avec une teinte religieuse. On a célébré, il n'y a pas tellement longtemps, Saint-Maurice. Vous savez, Saint-Maurice, c'est un soldat romain qui a refusé de massacrer les chrétiens en Gaule au IVe siècle, à peu près à la même époque. Il est donc enterré à Saint-Maurice, en Suisse. C'est le même phénomène, donc une grande crise économique. Un peuple donc de petits paysans qui circulent dans les bois ou dans les campagnes affamés et qui attaquent. Et là-dessus, il y a de temps en temps, ou bien un programme politique, ou bien un programme religieux qui se met. Et dans le donatisme, il y a un programme religieux qui s'est mis là-bas. Et qui est donc, c'est encore une fois, c'est triste. C'est triste d'utiliser Dieu à des fins politiques ou d'une insatisfaction personnelle.
En fait, ce que vous voulez dire, c'est que certains comportements renvoient à ce que l'on fait pour Dieu et pourquoi on le fait. C'est ça votre question.
Ma question, on a des pulsions de vie comme des pulsions de mort. Quand on voit, par exemple, pendant la guerre civile d'Espagne, des gens qui crient « Vive la mort, vive la mort, vive la mort », ou dans nos mots, on parle pendant une réunion des phalangistes, etc., on se dit « Bon, il y a un problème ». Quand les nazis montent au pouvoir et disent « Il faut massacrer les gens », il y a un problème. Il y a des pulsions de vie, des pulsions de mort qui sont beaucoup plus profondes que le problème religieux. Ce qui est dommage, c'est qu'on donne une étiquette religieuse à ça.
Quel sens on donne, en fait, aux martyrs ? Et ça a parfois été dévoyé.
Bon, de toute façon, c'est certain. Le plus beau des martyrs, c'est celui de pouvoir imiter le Christ dans la vie de tous les jours, en essayant de rendre service, d'aimer, de construire la communauté.
Merci, frère Philippe Haine. Je rappelle que vous êtes ici, à Liège. Vous avez rejoint votre communauté de Dominicains. Vous êtes spécialisé dans la patristique. Merci beaucoup.